documentaire qui est très très intéressant. Moi, m'a donné un terrible coup de vieux, parce que d'un coup on ne voit que des gens entre 15 et 20 ans. Et alors, ce qui est drôle, c'est que je vous disais tout à l'heure qu'en Algérie il y a ce mélange de l'arabe et du français, mais en fait c'est la même chose. Place de la République, vous entendez ces jeunes français qui parlent et qui utilisent des mots qui sont des mots arabes, qui sont des mots wolof, qui sont des mots de swahili, de plein de langues différentes, et à mon avis qui ne se rendent même pas compte, enfin qui ne savent même pas forcément d'où vient ce mot, qui sont des mots qui sont entrés dans la langue française. Donc cette plasticité, c'est magnifique.
La romancière Leïla Slimani, présidente du jury du Festival international du film des droits humains de Genève, séduite par le film L'Époque, présenté alors en compétition dans la catégorie documentaire de création. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, c'est quoi l'époque? Ou comment saisir ici et maintenant ce qui se passe dans la tête des jeunes? Sorti en salle aujourd'hui du film documentaire L'Époque, tourné à Paris la nuit entre les attentats de Charlie en 2015 et la présidentielle de 2017. Slameurs, militants, étudiants, chômeurs ou salariés, que font-ils? À quoi rêvent-ils? Dans quel monde vivent-ils? Comment se voient-ils aussi dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? On en parle avec nos invités, le réalisateur scénariste Mathieu Barrère, déjà auteur de Nocturne, et Marion Siffert, metteur en scène, auteur elle aussi, collaboratrice artistique sur le film. Bonjour Mathieu Barrère.
Bonjour.
Bonjour Marion Siffert. Marion Siffert, pardon.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. L'heure bleue, filmer les jeunes, la nuit, entre paroles libérées et excès de sincérité peut-être. Pourquoi ce choix, Mathieu Barrère? La parole est-elle vraiment plus juste la nuit?
Je pense que quand on s'intéresse à la liberté, on va spontanément vers les endroits, le temps qui lui est propre. Et je pense que la nuit, ça permet de réouvrir tout un ensemble de choses, de pensées, de vécu. C'est toute la semaine en fait qui peut revenir dans le week-end, et toute la journée qui peut réapparaître. Je pense qu'il y avait l'idée d'ouvrir des brèches, des fissures, pour raconter et montrer tout ce que je ne voyais pas, tout ce qui me manquait en fait.
On sent d'ailleurs dans ce film que la caméra se dit c'est là que ça se passe, c'est là qu'il faut être, et à ce moment-là, Marion Siffert, qu'est-ce qui s'y passe la nuit? Vous êtes allée vous balader aussi avec Mathieu Barrère et sa caméra?
Alors non, moi j'étais pas là du tout pendant le tournage, j'étais là au retour de la nuit justement. Et en tout cas, moi, je pense que ce qui s'y passe la nuit, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui s'est trouvé en cours de tournage. C'est qu'on s'est rendu compte que la nuit, on avait accès aussi à un inconscient. On avait accès à tout ce qui échappe au contrôle. On avait accès aux rêves. On avait accès à ce que les jeunes, en fait, ne parviennent pas à dire pendant la journée. En fait, on cherchait, je pense, des paroles qui se libèrent. Des choses qui éclatent. Et oui, et c'était ça qu'on regardait à chaque fois le lendemain. En rentrant, c'était se dire à quel moment on sent une sincérité, à quel moment on sent qu'il y a eu un échange, à quel moment on sent que ça s'est rencontré, sa caméra, le preneur de son et ces jeunes-là.
Alors des paroles qui se libèrent, des paroles qui éclatent, des moments comme ça, captés pendant la nuit. Est-ce que ça vaut aussi pour vous, Mathieu Barrère? Est-ce que votre caméra, la nuit, elle est désinhibée? Est-ce que vous vous êtes laissé porter? Ou est-ce que de bout en bout, finalement, vous n'avez pas perdu la maîtrise du projet?
Mais en fait, justement, c'était... Je pense que ce qui était à la source du projet de l'époque, c'était d'accepter de perdre le contrôle et de ne pas maîtriser et de se laisser guider par ce qui arrivait, par la rencontre, en fait. C'est pour ça que Marion a parlé d'involontaire, c'est-à-dire, je pense que, en fait, la zone de contrôle, justement, il faut en sortir, et je pense que j'avais envie de m'aventurer et de capter tout ce qui relevait non pas de la volonté, des idées et de ce qui est maîtrisé, mais de la pulsion, des désirs, parce qu'en fait la part de l'involontaire me semble bien plus importante dans la vie. Finalement, ça représente, je pense, je sais pas, les trois quarts de ou je sais pas, 95% de l'existence me semble être gouvernée par ça en fait. Et voilà, j'avais envie de penser à un film dans lequel on pourrait mettre tout ça. Voilà.
Donc de la parole plutôt que des discours, mais il y a quand même quelques instants en volée, le temps de l'ivresse, c'est aussi ça, la nuit. Et on voit Sarah, par exemple, qui boit, Sarah qui fait l'avion avec les bras. Est-ce qu'ils avaient, vos interviewés, un droit de rétractation le lendemain? Est-ce que certains ont pu se dire, mais mince, c'est finalement pas du tout peut-être la bonne image de moi que j'ai montré? Quel pacte vous avez noué avec eux?
C'est très important, en fait, il n'y a pas d'image volée dans le film. Parce que toutes les personnes du film... Je pense vraiment 95%, parce que j'ai essayé de toutes les retrouver, même parfois un an et demi après. Toutes les personnes du film ont validé leur séquence et ont vu le film. C'était très important pour moi, en fait, que ce soit... En fait, à l'époque, c'était l'idée de partager, en fait, de partager un film, de partager une expérience de cinéma. Ce qui m'intéressait, c'était justement de faire tout ce que je pouvais pour laisser tomber toutes les idées que je pouvais avoir au sujet de ma génération, de l'époque. C'était accepter de se perdre, de perdre et de perdre vraiment. Et donc voilà, je vois le cinéma comme un art de la relation, en fait. Et ça passe autant par la rencontre et par le lien qu'on peut créer avec les gens sur parfois plusieurs années que par le montage.
Est-ce que oui, pardon, Marion.
Non, mais c'est vrai que par rapport à cette relation qui se tisse avec les personnes qui sont filmées dans le film, ça s'est construit individuellement avec chaque personnage, en fait. C'est-à-dire que c'était à la fois, bien sûr, avoir leur autorisation au moment du tournage, mais aussi après leur montrer les séquences, mais aussi des séquences montées, c'est-à-dire par rapport à quoi ils étaient montés. C'était vraiment les faire rentrer aussi dans la pensée du film, construire le film aussi avec eux. Et puis aussi, c'est vrai que de voir, pour certains, voir les images d'eux-mêmes, en fait, ça permettait ensuite de continuer à tourner avec eux et d'aller encore plus loin dans le tournage, en fait, de les intégrer pleinement au film.
Donc, ils s'y sont retrouvés dans ces images et cette parole qu'ils vous ont donnée. Ils ne se sont pas sentis lésés, c'est ce que
vous
dites
aussi.
Non,
pas du tout, parce que... En fait, pardon, excusez-moi.
Non, je vous en prie.
En fait, moi j'ai filmé par exemple énormément de plans de façon très rapprochée, c'est-à-dire c'est souvent des portraits. Je suis extrêmement proche des personnes. C'est-à-dire qu'il y a pas d'image dérobée dans le film. C'était, je pense vraiment l'envie de construire ce film avec les personnes.
Et donc, par vos choix ou malgré vous, il y a des figures centrales dans ce film documentaire à l'époque. Il y a des visages qui se détachent, des paroles qui prennent aussi une autre importance parce que ces personnages, vous les avez suivis, retrouvés parfois. Et c'est le cas de Rose qui est vraiment une figure du moment. Vous la rencontrez place de la République. Elle sera aussi là au moment de Nuit Debout. Écoutez.
On est là, on dit qu'on est un peuple, une nation de gens libres. On sort même pas dans la rue quand on nous dit qu'il y a des gens, des femmes, des enfants, ils sont dans des camps. Dans notre pays, tout le monde s'en bat les couilles. Après, ils vont dire ils sont tous Charlie. Quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, dans la même semaine au Nigeria, il y a 2000 personnes qui sont mortes. Tout le monde s'en bat les couilles. C'est la vie, hein. Mais moi, j'ai pas la haine. Parce que tu vois, tous les gens qui sont là parce qu'ils ont envie que quelque chose change. À l'histoire, on t'apprend que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des gens qui ont été parqués comme des grosses merdes, qu'on leur a retiré toute dignité humaine. Aujourd'hui, on fait pareil. On les gaze pas, on les laisse crever dans la boue. C'est mieux, hein. C'est plus propre. Aujourd'hui, on va faire la guerre en Libye, en Centrafrique, au Tchad, au Mali. Les gens, ils viennent ici parce que chez eux, ils se font tuer. Nous, on n'est pas capable de les recevoir et on est dans un pays civilisé. Y a pas de problème, hein, on est dans un pays libre. Hein. T'as vu, je te parle, j'ai pas de haine. Hein. Mais si tu savais comment j'ai le feu. Si tu savais comment j'ai le feu.
Au début de l'époque, elle dessine sur ses jambes. À la fin du film, elle dit ciao. À la France, à ses espoirs, à ses idéaux, elle dit « Mes icônes font rêver, les vôtres font crever ». Ça, c'est une lettre ouverte qu'elle écrit au président de la République, comme elle le dit, et qu'elle postera sur les réseaux sociaux. Pourquoi elle ? On sent déjà dès les premiers instants, dès la première prise de parole, que sa colère est mûre, mais que sa colère peut-être aussi est saine. En quoi, pour vous deux, incarne-t-elle l'époque ?
Je sais pas si elle incarne, en tout cas, je sais que c'est la seule personne à qui j'ai posé cette question en 2 ans de tournage. c'est quoi l'époque ? Parce que je pense qu'elle pouvait répondre. Je pense qu'il y a, chez elle, en tout cas dans le moment que j'ai filmé d'elle, le moment de sa vie, elle incarnait une puissance de la rencontre. Et elle faisait dans sa vie ce que moi je faisais avec ma caméra. C'est-à-dire elle tissait des liens, elle trouvait des raccords entre les gens. Et elle était aussi dans le don permanent, en fait, de sa personne. Et dans, aussi, elle incarnait, effectivement. En fait, elle prenait tout sur elle, sur son corps, en fait. C'était pas du militantisme par idée. Enfin, il y avait quelque chose qui était... elle essayait de changer les choses à partir d'elle-même. L'idée de se révolutionner constamment.
Marion Sieffert.
Et oui, et c'est vrai que moi, quand j'ai vu les images de Rose, parce que toutes ces images qu'on voit dans le film, ça s'est étalé sur un mois et demi, en fait. Et c'est vrai que ce qui était fascinant, c'était que ça faisait déjà plus d'un an que Mathieu filmait. Et quand elle est arrivée dans le film, on s'est dit, bah ça y est, en fait, on a trouvé le film parce qu'elle nous permettait, en fait, de tout mettre en ordre. Parce que pendant le tournage, on pensait constamment au montage. Et en fait, elle permettait de rendre visible, de rendre sensible toute la recherche, en fait. Le fait que c'était un film qui se cherchait en se tournant, qui... Quand elle lui dit... Toute la situation du film, quand elle dit au début du film « Tu veux pas faire un gros plan pour qu'on voit mes poils de jambes ?» En fait, c'était toutes ces petites phrases, tout cet esprit qui permettait de rendre compte, en fait, de l'état d'esprit dans lequel étaient Mathieu et Thibault quand ils filmaient. Et de cette envie de jouer, en fait, de la caméra avec la caméra, mais pour montrer.
Il est possible de la nuit entre chien et loup. Il n'y a pas eu de casting pour ce film. Il y a eu des rencontres, Mathieu Barrère. Mais peut-être dans le choix de la nuit, il y a déjà une manière d'orienter la rencontre, d'orienter les personnages qui seraient dans votre film à Paris, puisqu'il y a cette unité de lieu. Vous avez rencontré, vous, des jeunes de tous les horizons ?
Oui, mais en fait, effectivement, en 2 ans, j'en ai rencontré, je pense, vraiment des centaines. Je pense, il y avait pas, comment dire, le plus difficile pour moi, c'était de ne pas avoir, justement, d'idées préexistantes des personnes que je devais rencontrer. Je voulais, en fait, faire confiance au hasard, à la déambulation et à la rencontre. Donc, il y avait... Tout le temps, il y avait en moi l'idée qu'il fallait se déprendre de tout ce que je croyais savoir, en fait. Et voilà.
Oui, et puis c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui se jouait sur le moment. En fait, je pense que c'était aussi une manière de se rendre disponible pendant le tournage, à la rencontre, donc de maintenir un niveau d'énergie assez haut aussi. Mais pas volontaire, en fait, d'être aux aguets en permanence. Puis ensuite, quand on regardait les rushs ensemble, c'était toujours en fait, de se dire à quel moment on a vraiment rencontré des gens qui se sont livrés. On a la sensation qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que le dispositif, enfin oui, que le cinéma a permis de libérer, en fait. C'était de se dire qu'est-ce que peut créer le cinéma dans nos vies, dans leur vie, dans les nôtres. Et c'est vrai que c'était cette attention-là. On cherchait à chaque fois des singularités. On cherchait des choses qui venaient à l'encontre de... Enfin, qui nous surprenait, en fait. On se disait, mais ça, j'ai jamais vu. Ou cette idée-là, dite de cette façon-là, avec ce corps-là, cette émotion-là, tout cet alliage-là, c'est quelque chose qui est précieux, qui est singulier.
Mais le film se passe au moment de Nuit Debout. Quand vous choisissez de faire ce film, il y a déjà Nuit Debout ou pas ?
Ah non, pas du tout.
Donc en ça, fait, c'est le hasard du temps de tournage.
Voilà, exactement. C'est-à-dire le film, le tournage commence en mai 2015 et il se termine en juin 2017. Donc on passe, enfin le Nuit Debout passe dans le film, mais finalement...
Mais prendre la place quand même.
Pas tant que ça, parce qu'en fait, Nuit Debout comme assemblée délibérative n'existe pas du tout dans le film. La seule chose qui, d'une certaine manière, en fait, rappelle Nuit Debout ou incarne Nuit Debout, c'est Rose, parce que c'est là que je l'ai rencontrée.
Et c'est la place de la République, voilà. Et c'est les tensions qu'il va y avoir avec les forces de l'ordre, et c'est ce rapport qu'elle, elle va, effectivement, devenant figure centrale de votre film, incarner ou développer avec eux. Qui vous avez rencontré d'autre ? Il y a qui, finalement, dans ce film ? autant des étudiants que des jeunes qui travaillent, des militants, des musiciens. Qui sont ces oiseaux de nuit?
Moi, je les appelle par leur prénom parce que c'est en fait ce qui était. Voilà, c'est pas des amis initialement. C'est des gens que je rencontre et qui sont peu à peu, pour certains d'entre eux, devenus des amis. Donc je les appelle par leur prénom. Pour moi, c'est Sarah, c'est Sandra, c'est Raphaël, c'est. En fait, je ne réfléchissais jamais en me disant quel type de personne je vais rencontrer. Il n'y avait pas de le type en fait. C'est déjà comment dire. Je ne réfléchissais pas en catégorie quoi, et surtout pas social ou sociologique. Je ne sais pas comment dire.
Non, mais au final, vous les avez rencontrés. Et ça donne une certaine idée de la jeunesse ou des jeunes aujourd'hui.
Oui, parce que je pense que évidemment les différences existent, elles sont là dans le film et je pense que l'idée c'était aussi de faire retrouver. De trouver des ponts, des liens, des ressemblances, et en même temps de faire réapparaître tout un ensemble de séparation, de sentir qu'il y a vraiment des jeunesses qui ne vivent pas forcément les mêmes choses, qui peuvent se retrouver sur certains points, qui sont traversées parfois par des sentiments communs. Ce que je veux dire, c'est que quand la jeune fille en terrasse nous fait un aveu de solitude, c'est des choses dans lesquelles d'autres jeunesses peuvent se projeter, parce que c'est des sentiments qui sont communs, qui traversent en fait. C'était de trouver en fait, de retrouver un peu de commun là-dedans, mais par le sentiment.
Est-ce que l'un des points communs n'est pas justement cette manière d'habiter l'époque? Le temps est irréel, on attend quelque chose, mais quoi, vous dit l'un d'eux. Quel rapport au temps ils ont, et c'est-à-dire quel rapport ont-ils au passé et à l'avenir? Comment l'envisagent-ils?
Ça, je ne sais pas, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était moins le rapport au passé et à l'avenir que le rapport au présent, c'est-à-dire à ce qu'il est traversé ici maintenant. Pour moi, la difficulté, ce qui est rare, et c'est pour ça que finalement le film sur 250 heures ne retient qu'une heure et demie, ce qui est rare, c'est d'arriver à trouver des personnes qui sont capables de me dire ce qu'ils sentent, voilà, ce qu'ils traversent maintenant, ici et maintenant. Et voilà.
La nuit, les masques tombent et la parole se libère. Témoignage aussi devant votre caméra, Mathieu Barrère, d'une militante du Black Bloc. Ils ont fait un retour marquant ou remarqué dans plusieurs actes du mouvement des Gilets jaunes à Paris. On entend ici sa voix, elle ne parle pas face caméra, elle ne parle pas non plus à visage couvert. Elle raconte son engagement, elle raconte l'affaire Théo, Adama, elle raconte l'oppression de la police et l'incarnation pour elle de l'État violent. Elle raconte pourquoi, ou tente de comprendre pourquoi elle a basculé ou choisi d'aller vers ce mouvement, vers ce groupuscule, vers les Black Blocs.
Je pense qu'il y a quand même une signification et quelque chose à porter quand tu te masques et quand tu fais partie de ce cortège de tête ou du Black Bloc et qui te pousse à agir et qui est complètement différent du rôle social que tu peux avoir quand tu es démasqué, mais qui n'efface pas tout, mais qui réécrit sur quelque chose. C'est quelque chose d'assez important pour moi. J'ai toujours été la première de la classe, enfin, là, tout ça. J'ai passé 3 ans en prépa à préparer un concours qui était le Saint Graal pour moi. Ça fait quand même quelques années maintenant que je veux être prof de philo et que je voulais avoir la meilleure place possible, avoir une bonne carrière universitaire, publier, enfin, bon. Et le mouvement contre la loi travail et ce qui a continué après m'a fait beaucoup relativiser là-dessus. Jouer un rôle dans la société, avoir un bon rôle, c'est quelque chose qui a perdu énormément d'importance à mes yeux. J'étais pas du tout contre l'État ou anarchiste il y a un an. Et je pense que mon rapport à la police a vraiment engendré une réflexion là-dessus, sur l'État, sur le pouvoir que l'État a sur nous, sur la société de contrôle, et qui m'a fait remettre en question énormément de choses. Je pense que c'est à partir du rejet de la police que j'ai pu avoir une réflexion politique un peu plus large.
Témoignage donc devant votre caméra, addiction à la violence, dit-elle. Je ne sais pas exactement ce que je cherche là-dedans. Il est assez fascinant ce témoignage et la parole qu'elle délivre très simplement, de fait de raconter d'où elle vient et comment elle en est arrivée là, ses incompréhensions elle-même par rapport à ce qui l'a poussée à agir. C'est là qu'on se rend compte qu'à visage couvert, le masque tombe quand même hein, aussi, ou les masques pendant la nuit.
Oui, c'est sûr qu'il y a des... Il y a des moments, je pense, dans le film, des moments de révélation. Après, personnellement, j'avais vraiment, j'avais envie de plutôt multiplier les masques dans le film, de jouer, de sentir que les gens jouent avec les masques, et de respecter aussi ce désir d'anonymat. Donc, c'est aussi, oui, une manière de se métamorphoser, je pense.
Et là, le cadre et le contexte étaient là pour qu'elle vous raconte aussi pourquoi elle avait rejoint cette formation.
Ça a pris très longtemps. C'est-à-dire que c'est le Black Bloc. Moi, je le rencontre la première fois, c'est pendant la COP21 en 2015. C'est le 12 décembre 2015, et je le rencontre exactement comme je rencontre un jeune sur les quais ou n'importe qui du film. C'est-à-dire par hasard. J'entends du bruit, je descends de chez moi, le Black Bloc passe, et d'emblée, je suis. Ça m'intéresse. C'est-à-dire ces gens qui défilent lentement, masqués. Un peu en, comme ça, en ordre de bataille, je me dis là, il y a quelque chose de spécifique. C'est-à-dire, c'est pas une manifestation que je connais, c'est pas un type de manifestation que je connais, c'est, je cherchais comme ça des choses qui me semblaient singulières, des saillances, en fait, du temps présent. Et en fait, avoir accès à une parole, à obtenir la confiance de cette personne, ça m'a pris des mois, des mois et des mois.
Mais la question de la violence est quand même présente aussi dans votre film, Mathieu Barrère, des relations de ces jeunes avec la violence subie ou choisie telle qu'ils la perçoivent aujourd'hui. Ça, c'est un des signes de l'époque. Marion Sieffert.
Oui, je pense que c'est vrai que... En tout cas, la violence, c'est vrai que dans le film, en tout cas dans ce qui s'est passé entre 2015 et 2017... Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une violence dans les quartiers populaires que les jeunes subissaient de la part de la police, qu'on connaissait à travers des témoignages, à travers des articles d'universitaires, etc. Et c'est vrai que ce qui s'est passé entre 2015 et 2017, c'est-à-dire que cette violence-là, il y a d'autres personnes qui ont commencé à la vivre. Et donc, c'était plus une idée intellectuelle ou quelque chose qu'on comprenait intellectuellement, mais c'était quelque chose que des gens ont vécu physiquement, dans leur chair, etc. Et du coup, je pense que c'est... Enfin voilà, en manifestation, des étudiants, maintenant des personnes âgées, des familles, des citoyens qui vivent dans le centre de Paris. Et je pense que du coup, c'est vrai que le fait de recevoir cette violence-là, provoque à la fois une réflexion là-dessus et puis aussi forcément, comme le décrit cette Black Bloc, une forme de fascination aussi, une envie de la retrouver, une envie de s'y confronter à nouveau. Je pense que c'est toute cette complexité-là en fait qu'on a voulu en tout cas comprendre, enfin donner dans le film à comprendre.
Mais elle est diffuse et elle est présente, cette violence. Elle est aussi parce que vous commencez à tourner après les attentats de Charlie Hebdo, Mathieu Barrère. Il y aura aussi, durant ces 2 ans de tournage, l'attentat du Bataclan. Il y a une violence qui est là, qui est dans l'air de l'époque à Paris.
Moi, ce qui se passe pendant Charlie, en fait, ce que je ressens pendant Charlie, la violence, en fait, elle est dans le fait que je sentais bien qu'il y avait que certaines choses ne pourront plus être exprimées, qu'il y a des mots qui ne pourront plus être dits, qu'en fait on nous a amené en fait à ne ressentir qu'une seule chose, la peur. Et c'est pour ça que j'ai autant tenu à terminer le film par la lettre de Rose, où elle dit, il y a cette phrase où elle dit, sachez bien que chez moi la peur n'existe pas, parce que je trouve que entre 2015 et 2007, où en fait ce qui prédominait constamment partout dans tous les discours qu'on pouvait entendre, c'était une injonction à avoir peur. Je trouvais que ça hyper important de réouvrir en fait le champ des émotions, le champ des sensations. Dire en fait il y a autre chose qui est possible, c'est-à-dire que cette peur là, elle est là, elle existe. En tout cas, on demande de la vivre parce que ça permet de recouvrir tout un ensemble de choses que nous vivons et en particulier que vit la jeunesse. C'est-à-dire c'est toutes les questions de la jeunesse, elles ne pouvaient plus être exprimées parce qu'il y avait toujours plus important. Et voilà, c'est
Donc à côté de la colère, à côté de l'angoisse, vous avez aussi entendu le bonheur, l'amour, les espoirs, le plaisir dans la danse, dans les retrouvailles, dans le collectif.
Exactement, mais c'était l'idée, c'était de ne pas séparer les choses en fait. Qu'il n'y avait pas des sujets ou des champs de, je sais pas comment dire, d'un côté la politique, de l'autre l'intime, parce que pour moi les choses se mêlent et le geste du film c'est exactement ça, c'est de faire sentir que tout est lié, qu'il n'y a pas des frontières, enfin la vie est pas divisée en catégories. Et moi je me souviens d'un truc qui m'a énormément marqué, c'est quand j'ai projeté le film au Caire, les spectateurs qui vivent dans une dictature atroce depuis des années, ils ont très bien, enfin ils percevaient le film vraiment comme une ode à la liberté, parce que s'embrasser dans la rue pour eux c'est plus possible. Donc c'est et on voit bien comment en fait la politique, comment dire, dirige, comment s'immisce en fait jusque dans nos intimités, dans nos sentiments, dans ce qu'on ressent.
Parmi vos influences, il y a, dites-vous, Mathieu Barrère, Chris Marker et son joli mai, tourné par le réalisateur avec Pierre Lhomme dans Paris en mai 1962, le printemps de la paix, après les accords d'Évian, 6 ans avant les événements de mai 68.
Vous aimez le camping ?
J'adore le camping, moi.
Vous aussi, mademoiselle ?
Oui.
Elle en a fait moins que moi, mais enfin, certainement qu'elle aimera ça.
Et les autres ?
Quels autres ?
Tous les autres.
Oh, mais je pense qu'ils sont comme nous.
Oh non.
Non.
Je
crois. Pourquoi? Parce que pourquoi tu ne les compares pas à nous?
Oh ben il y en a pas beaucoup. Je trouve pas qu'il y en a tellement. Moi.
Précisez. Quelle est la différence? Ils s'aiment moins?
Non, mais pas pareil.
C'est-à-dire?
Ouais. Tu veux dire par là que ben, nous ça a toujours été très sérieux quoi.
Depuis 6 ans.
Oui.
Quel âge vous avez ?
Eh bien, moi, j'ai 21 ans tous les deux.
Moi, 21 demain.
21 ans demain. Et depuis, nous avions donc 15 ans que nous sommes connus et on a toujours été très fidèles l'un à l'autre.
Des camarades, la camaraderie.
Oui, évidemment.
Enfin, on s'est pas tellement vu. On se voyait pas souvent, mais on espérait toujours.
Vous étiez voisins ?
Oh non.
Pas du tout, justement. Alors, nous n'étions pas favorisés. Hein.
On s'était connus à un mariage.
Un portrait politique, social et culturel de la France de 1962. Ce film, pour l'avoir vu et revu, comparé peut-être aussi aux images et aux paroles que vous avez recueillies et rapportées, plus ou moins selon le même procédé. Qu'est-ce qui a changé plus de 50 ans après? Quelles aspirations? Est-ce qu'il y a une forme d'intranquillité quand même que vous percevez aujourd'hui, qu'on ne percevait pas en 1962? Mathieu Barrère,
Marc Nocifer. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le film de Marker est, enfin bon, moi je l'ai découvert en 2013 quand il est ressorti restauré. Ça a été très important pour moi parce que d'une certaine manière, en fait, je me suis dit, en fait, c'est possible de faire du cinéma dans la rue, de la façon la plus légère qui soit. Donc ça c'est très important pour moi, cette légèreté, cette méthode que je pouvais d'une certaine manière en fait me réapproprier avec les outils qui étaient les miens aujourd'hui, qui sont d'une très très grande légèreté. Sur l'intranquillité.
Moi, je pense que c'est dû au fait que c'est nous qui le regardons maintenant, le film de Marker. Donc, on est plus tranquille par rapport à 1962 qu'on est tranquille par rapport à notre présent. Je pense que...
Vous nous trouvez plus tranquille.
Comment ?
Vous nous trouvez plus tranquille.
Ah non, je nous trouve... Forcément, on est plus intranquille par rapport à ce qui nous concerne maintenant que par rapport à 1962, où bien sûr, ça ne nous concerne plus vraiment. Donc, je pense que c'est ça, cette intranquillité. Mais c'est vrai qu'il y avait ce film-là qui était important. Et puis, il y avait aussi un autre film dont Mathieu me parlait beaucoup tout le temps pendant la préparation de l'époque. C'était « Adieu au langage ». De Godard, où vraiment c'est ce film-là qui a impulsé en fait le montage et qui a impulsé en fait le fait d'imposer ce film comme un collage, comme une forme qui était plus
d'assumer une forme non linéaire, quoi.
Oui, de l'ordre du poème et de quelque chose qui était dans le fragment aussi. C'était pas on va suivre un personnage. Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui était difficile à imposer dans le documentaire aussi, qu'il n'y avait pas de sujet a priori, et que c'était quelque chose qui était complètement voilà, que c'était un collage. C'était se laisser guider par ce principe-là.
Mais il y a quand même de ce collage un sens qui s'en dégage aussi, peut-être pas tant orienté par les questions que vous avez posées, ni les réponses que vous êtes allé chercher, mais on sait que pour parler de la jeunesse, même si l'idée n'était pas de faire un film sur la jeunesse, mais de la raconter de l'intérieur, sans porter de jugement, il y a quand même une photographie qui arrive à cet instant T. Choisir sa vie, dans les années 80-90, c'était encore possible. Ça, c'est ce que nous dit l'auteur de la trilogie de Vernon Subutex, Virginie Despentes.
C'est l'idée que je m'en fais, ouais. J'ai l'impression qu'il y avait une possibilité de, il y avait une marge, une vraie marginalité qui était encore assez douce. Les années 80, c'est encore les héritières des années 70 à plein de niveaux, quoi. Donc, il y avait encore une, et on pouvait se dire, je vais bricoler mes trucs, quoi. Je vais bosser ici, quelques temps, bosser, va pas, je vais faire une vie tranquille et sans que ce soit une précarité, sinistre. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la précarité, pour un tas de raisons, est devenue beaucoup plus dure, beaucoup plus violente et beaucoup plus difficile à vivre. Et qu'il n'y a plus cet espace, cet intervalle, où il y a moins cet intervalle.
Dans cet espace dont vous parlez, est-ce qu'on était libre?
J'ai la sensation qu'on l'était plus qu'aujourd'hui, peut-être parce que j'ai vieilli, ou peut-être parce que c'est juste, je ne sais pas, mais moi, c'est vrai qu'entre-temps, j'ai pris 30 ans, quoi. Donc on change de regard. J'ai la sensation, oui, qu'il y avait plus de liberté, notamment pour les jeunes gens, qu'ils étaient moins surveillés dans ce qu'ils faisaient. Bizarrement, parce qu'ils ont beaucoup de liberté aujourd'hui, mais ils sont beaucoup plus surveillés, beaucoup plus rattrapés, beaucoup plus, c'est beaucoup plus rapide.
Marion Sieffert, est-ce qu'elle est plutôt optimiste, cette jeunesse, ou est-ce qu'elle est menacée de ruine, comme disait Nizan ?
Je pense que la jeunesse, en tout cas telle qu'elle se raconte, forcément, elle est optimiste, parce que quand on est jeune, on a les possibles devant nous. En tout cas, c'est ce qui caractérise cet âge-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas traversé d'angoisse, de peur. Je pense que c'est ça, c'est cette alliance-là, en tout cas, cet alliage-là. Et en tout cas, dans ce que je perçois en regardant les rushs de l'époque, en discutant aussi avec toutes les personnes du film, c'est vrai qu'il y avait une volonté de s'organiser autrement. En fait, l'idée que la manière dont les choses se sont organisées durant les 50 dernières années, en fait, elle ne fonctionnait plus, quoi. Donc, en tout cas, il y a la nécessité d'envisager les choses autrement, de se dire qu'il faut s'organiser autrement.
Parce que c'est ça, c'est la violence dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi, c'est la violence dont on hérite, en fait. Mmh. Je pense que la grande confrontation, je pense, qui a lieu dans l'époque, c'est pas les jeunes à la police. Au fond, c'est les modèles de vie dont on hérite et qu'on nous demande de suivre et qu'on nous inculque comme nécessaires, comme intéressants, comme à suivre. Et en fait, des impulsions, des pressentiments, des intuitions qu'on a quand on a 18, 20 ans. Et pour moi, la question, c'était pas l'optimisme ou le pessimisme qui concerne l'avenir. C'était plutôt, est-ce qu'on est capable de joie et de tristesse, mais de façon intense, quoi. C'est quoi, quelle place on laisse à nos passions, en fait.
L'époque est en salle aujourd'hui avec Mathieu Barrère et Marion Sieffert, réalisateur et auteur, nous en avons parlé, puisque un film s'écrit au montage, comme le dit Godard, et comme vous semblez vous en être inspiré. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés autour de cette grande table, et un grand merci à toute l'équipe qui a préparé et programmé cette émission, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez, à Oriane Delacroix et à Henri Leblanc, avec l'aide très précieuse de Mathilde Tonfourcade et Antoine Suzanne. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Elig avec Pierre Faucillon. Très bel après-midi à tous sur France Culture.